Bonjour. Nous sommes appelés à être image de Dieu dans le monde, ses représentants sur terre. Mais si on se pose bien la question, est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose de beaucoup trop dur à assumer? La difficulté n'était pas suffisamment évidente pour se voir dans l'obligation de renoncer à cette identité? Parce que être image de Dieu dans le monde évoque tout de suite beaucoup de représentations figées et par conséquent très difficiles à assumer. En effet, si on dit Dieu dans notre contexte suisse romand de 2019, on dit c'est dépassé, ce sont des églises qui se vident, ça peut être des scandales en tout genre. C'est peut-être même de l'intégrisme, voire même de l'extrémisme qui conduit au pire. Et nous, croyants, ici réunis ce matin, nous devrions être image de ce Dieu-là. Moi, je dirais autant se planquer gaiement. Autant arrêter de faire des cultes radio sur une radio publique, parce qu'on risquerait d'être démasqué. Et d'ailleurs, encore heureux que ce ne soit pas la télévision qui soit venue ce matin dans notre Église. Souvent, nous sommes pris dans ces pensées-là, et il est très difficile alors de s'en extirper. C'est un peu comme un trou noir qui nous avale. On doute de la foi, on doute des chrétiens, on doute même de nous, et on finit presque par douter de Dieu. Ou alors on le met, ce Dieu, tellement loin que le lien entre lui et nous, que ce lien entre le ciel et la terre, devient si ténu, si faible, qu'il n'est plus visible du tout. Dans un sens différent, être image de Dieu sur terre devient une réalité également trop dure à assumer lorsque le croyant mesure l'abîme qui le sépare de Dieu. Comment vivre et être à son image, tout en étant terriblement imparfait, ou pécheur, pour reprendre un terme connu, mais qui n'est plus tellement populaire. Comment être image de Dieu? Ça paraît tout simplement impossible. Du coup, cette identité nous fait souffrir jour après jour, car elle met en lumière de manière crue la réalité de cet abîme qui nous sépare du Dieu trois fois saint. On risque alors de ployer sous le poids terrible et bien connu de la culpabilité de ne pas être digne de ce statut. Et le problème majeur avec la culpabilité, c'est qu'elle nous coupe de la grâce, car nous croyons, à tort, devoir compter sur notre propre volonté pour être image de Dieu, pour lui plaire, pour honorer ce statut qui, nous l'avons entendu, nous a été donné. Cette culpabilité, finalement, nous fait évoluer dans la peur de Dieu. Et vous savez bien, si l'on a peur de quelqu'un, on a rarement envie d'être en relation avec lui. Encore moins en relation intime avec lui. En conséquence, là aussi, être image de Dieu devient aussi une perspective si lointaine que le lien entre Dieu et nous croyants, entre le ciel et la terre, devient si ténu qu'il n'est plus visible, qu'il n'est plus vivant. La peur ou la honte, dans un premier temps, le péché, sont deux obstacles majeurs qui nous empêchent d'assumer notre statut d'image de Dieu dans le monde. Deux obstacles qui nous font parfois oublier notre identité. Et deux obstacles, surtout, qui naissent de deux manières erronées de comprendre notre identité, d'être image de Dieu. Alors, comment comprendre cette identité de croyant, qui sommes appelés, et ça reste valable, à être image de Dieu dans le monde? Comment comprendre notre identité de personne transfigurée dans un contexte qui peut être hostile ou indifférent? Premièrement, être image de Dieu, c'est être en relation avec Dieu. C'est qu'il y a une connexion entre les deux. Nous croyants qui portons son image et Dieu qui nous l'a donnée. Si le lien est coupé ou alors très ténu, comme nous l'avons vu, le devenir de l'être humain dans son entier, et plus particulièrement du croyant, est touché en son cœur. Car nous croyons fermement que l'être humain est créé pour être en relation avec Dieu, que l'on croit Père et Créateur de tous. Dieu a décidé et voulu cette identité pour nous. Notre nature imparfaite et empreinte de péché n'a pas effacé totalement cette donnée essentielle. Et avec saint Augustin, nous pouvons dire que l'étincelle de la présence de Dieu en nous ne s'est pas éteinte complètement. Elle reste là, cette étincelle, bien présente, fragile et forte à la fois. Lorsque Dieu s'adresse à Adam et Ève, nos lointains ancêtres, dans le jardin d'Éden, par cette magnifique question, après qu'ils aient mangé du fruit défendu, il leur dit « Adam, ou homme avec un grand H, où es-tu ?» Et ces derniers ne restent pas muets. Ils trouvent la force et la capacité de lui répondre à ce Dieu qui les interpelle. Comment comprendre cette capacité de réponse autrement que par la conviction que cet appel de Dieu fait résonner quelque chose de profond en eux. Ce qu'Augustin, précisément, appelle cette étincelle qui ne s'est pas éteinte complètement de l'image de Dieu voulue par le Créateur. La relation est mise à mal, certes, elle devient compliquée, complexe, mais jamais cette relation entre Dieu et l'homme n'est totalement rompue. Et partant de cette certitude que Dieu reste en relation, l'homme, cet Adam, peut envisager avec lucidité de plonger son regard sur cette image déformée par le péché, sur la réalité de cette relation mise à mal qui peut et doit être renouvelée et réformée par l'illumination divine, ce qui ne peut advenir sans la conversion et cette tension de l'homme vers Dieu. Ainsi, être à l'image de Dieu, c'est premièrement assumer ce besoin de relation avec notre Père. C'est assumer et surtout désirer cette présence en nous pour devenir toujours plus semblable à lui, à Jésus, cette image parfaite du Père qui nous a été donnée. C'est assumer notre image déformée de pécheur afin qu'elle soit reformée par l'Esprit Saint. Donc, dans un deuxième temps, être image de Dieu, c'est accepter la perspective d'une transformation, d'une évolution. C'est accepter d'avoir une vie de croyant qui sera marquée par des changements profonds et personnels. Je vous relis ce verset de 2 Corinthiens 3, 18, qui est un peu pour nous le fil conducteur de notre méditation, qui nous dit « Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. » Et plus loin, dans cette même épître aux Corinthiens, et de façon très concrète, Paul utilise, pour nous croyants, l'image des vases de terre pour signifier, et là de manière assez évidente, que nous sommes des êtres que Dieu peut façonner. Et si nous sommes des êtres que Dieu peut façonner, cela implique tout un programme de changement. Car oui, le changement, peut-être que vous ne le saviez pas encore, est au cœur de la foi chrétienne. Changement, transformation, implique une certaine dynamique et la nécessité d'aller de l'avant. Et je vous laisse une citation attribuée à un aventurier célèbre qui s'appelle Mike Horn, qui peut peut-être nous aider à justement aller de l'avant. Il nous dit, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Celles et ceux qui voudraient 100% de réponses avant de partir, finalement, ils restent sur place. Souvent, nous sommes pris par la peur de ces changements, de ces transformations, et souvent, on aimerait bien voir quel sera le résultat final de ces 100%. On peut le distinguer, c'est ce que nous promet la parole, cette gloire à venir. Mais en attendant, là où nous en sommes, contentons-nous de ces 5% pour aller de l'avant. Car être image de Dieu souligne l'importance du devenir de la vie chrétienne. La personne que je suis aujourd'hui n'est pas la même de ce qu'elle sera demain. Et la personne que vous êtes aujourd'hui ne sera pas la même de ce qu'elle sera demain. Une transformation toujours plus présente et profonde est espérée par le croyant en vue de ressembler toujours plus à cette image de Dieu. Alors, dans tout ce programme de changement, de transformation, dans ce devenir, nous avons besoin de compter sur des piliers qui nous sont offerts par la méditation de l'apôtre Paul. Ce premier pilier, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui permet cette relation vivante avec Dieu. L'Esprit, c'est tout simplement le souffle qui nous vient d'en haut. Et qui dit souffle, dit dynamisme, dit ligne qui bouge, dit transformation possible. Dans ce devenir, toujours plus à l'image de Dieu, nous avons soin de laisser agir et d'accueillir l'Esprit Saint en nous. Et en accueillant le Seigneur avec son Esprit en nous, nous accueillons une de ses caractéristiques principales, qui là aussi nous est rappelée par l'apôtre, qui nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous croyons, on l'aime bien ce verset, il faut l'avouer, et nous avons bien raison de beaucoup l'aimer. Et je nous invite même à en profiter joyeusement. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La vie chrétienne, être à l'image de Dieu dans le monde, c'est se laisser porter par le souffle de la liberté. Il y a une forme de légèreté et de simplicité dans cette vie-là. Et je ne suis pas sûr que c'est forcément la première image des chrétiens qui vient à l'esprit des personnes que nous pourrions interroger dans la rue. Cette forme de légèreté, de simplicité, de liberté qui habite la vie des chrétiennes et des chrétiens que nous sommes. Finalement, troisième pilier, après le pilier de l'esprit, après le pilier de la liberté, vient le pilier de la contemplation de Jésus-Christ. Paul nous invite à contempler, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Cette contemplation comme une invitation à se reposer non pas en nous, non pas pour nous, mais se reposer en Dieu, à chercher sa face plutôt que de se creuser la tête et finalement rester scotché ici-bas. Et là, je me vois en train de marcher sur les sentiers jurassiens, tout proche d'ici, dans la région de la Dôle, par exemple. Et puis, se présentent à moi deux possibilités. Soit je regarde constamment mes pieds, et puis je me concentre sur ce qui se passe directement. Soit je lève les yeux sur tout ce qui m'entoure. Et je dois vous avouer que pour contempler le paysage, la deuxième solution n'est certainement pas la pire. Avec Dieu, c'est un peu la même chose. Soit on reste scotché, un peu sur nos pieds, à vouloir chercher nos propres solutions. Soit on lève les yeux vers lui et nous pouvons le contempler et essayer de nous laisser inspirer par sa présence. Il est impossible de s'étendre trop longtemps ce matin sur ce sujet de la contemplation, s'il a occupé des rayons de bibliothèque et des vies entières de toute la tradition chrétienne, mais prenant simplement une pratique chevillée au corps et au cœur des croyants. La prière. Cette prière qui n'est rien d'autre, finalement, que le fait de parler à Dieu et de l'écouter, de lui parler en toute simplicité, comme à un père, avec nos propres mots, avec notre propre identité. Et l'Église, quant à elle, peut être un lieu, un espace où nous pouvons lever ensemble les yeux vers notre Dieu. Il nous faut conclure, et je vais revenir à cette question de base. Être image de Dieu, est-ce trop dur à assumer? Oui, si cette identité est mal comprise, car elle devient de facto trop dure à assumer. Et souvent, nous devons le reconnaître, nous tombons dans cet écueil qui laisse des traces de frustration, de découragement, de doute, voire même d'abandon de la foi. Lorsque, par conformité sociale ou en raison de la déception suscitée par certains pans de l'histoire chrétienne, nous éteignons cette étincelle de Dieu en nous, il devient difficile de trouver un sens à la vie chrétienne. De même, lorsque nous plaçons la barre au mauvais endroit ou beaucoup trop haut, la culpabilité fera vite son apparition, et là aussi, l'étincelle va s'éteindre. Et si cette image en nous s'efface, s'efface alors la relation qui nous unit à notre Père, à notre Sauveur. Au contraire, en comprenant bien cette identité d'être image de Dieu, et dans une dynamique orientée vers une relation vivante, il est beaucoup moins question d'assumer un statut que d'assumer une relation qui nous ouvre à notre Père et Créateur. Cette image de Dieu, alors, en nous, aussi fragile soit-elle, devient la force essentielle qui nous pousse vers Dieu, notre Père, mais aussi vers les autres, celles et ceux qui nous entourent. Installés avec foi ferme dans cette identité d'être image de Dieu dans le monde, nous pouvons alors donner pleine mesure aux deux commandements essentiels que Dieu nous a laissés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Ces deux paroles de Jésus qui nous laissent dans l'évangile de Marc nous aident à vivre concrètement cette image de Dieu dans le monde. Que notre Père nous garde, vienne à notre secours et nous unisse à être tous ensemble image de Dieu dans le monde.
Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. En Genèse 1, verset 27, nous avons lu « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. » Ainsi, nous avons tous, en chacun de nous, une étincelle divine. Lors d'un colloque de l'UNESCO en 1995, quelqu'un a dit « Sans la différence entre les hommes, l'identité de chacun disparaîtrait. C'est l'étincelle divine en chacun de nous qu'il faut préserver. Préservez votre étincelle divine. Mon ami, mon amie, cette étincelle, c'est ce qui fait que les gens se sentent bien en votre présence. C'est encore ce qui change le monde positivement. Ou encore, c'est ce qui fait entrevoir un peu plus le Seigneur à ceux qui vous entourent. Votre étincelle divine vous rend unique. Personne d'autre que vous ne peut faire ce que vous faites, ni être ce que vous êtes. C'est pourquoi le monde a besoin de vous, là où vous êtes. Il a besoin de votre étincelle divine. Brillez de sa lumière, mon ami, mon amie, et vous laisserez ainsi Dieu faire du bien à ceux qui en ont besoin.